Écoutez l'émission Une heure en Palestine, qui depuis 30 ans sûrement maintenant, est une émission hebdomadaire consacrée à la Palestine, aux Palestiniens, aux luttes pour la Palestine, au soutien à la Palestine, à notre volonté de justice, de paix, de belle vie à tous les Palestiniennes et Palestiniens. Depuis 30 ans, nous sommes là, nous sommes fidèles et merci à nos fidèles auditeurs. Merci à Radio Galère de nous accueillir chaque semaine et merci à notre technicien préféré, toujours fidèle, Sidi. Cette émission est animée par différentes associations de soutien à la Palestine et ce soir, c'est Palestine 13 qui va animer cette émission. Palestine 13 dont vous pouvez retrouver le site internet qui est très riche, mis à jour quotidiennement avec des actualités plutôt insolente, plutôt complète, plutôt vérifiée, qui émane souvent de Palestiniennes et de Palestiniens. Palestine 13, son site internet, assopalestine13.org. N'hésitez pas, elle édite également une lettre chaque vendredi. Vous pouvez vous inscrire pour la recevoir. Et elle a surtout, et c'est la rubrique préférée des Marseillais, une rubrique agenda qui regroupe tout ce qui se passe sur la Palestine, les luttes, les soirées poésie, la culture palestinienne est très importante. Donc sur ce site, vous avez l'agenda de tout ce qui concerne la Palestine à Marseille et dans les environs. L'émission de ce soir, je l'anime avec Claudette. Claudette, c'est la rencontre de ma vie. C'est avec elle que je suis allée en Cisjordanie et c'est avec elle que j'ai vraiment découvert ce qu'était la Palestine et les Palestiniens, ce qu'était cette histoire coloniale qui dure depuis tant d'années. Nous étions trois en Palestine, en Cisjordanie. Nous étions Claudette, moi et Geneviève. Geneviève est décédée cette année. Elle est décédée un dimanche soir après la manifestation hebdomadaire pour la Palestine. J'ai une pensée très 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 émue pour Geneviève et je remercie vraiment beaucoup Claudette d'être avec moi parce qu'elle n'est pas très en forme aujourd'hui mais elle tenait à faire cette émission. Donc merci Claudette et pensée affectueuse à Geneviève. Donc quand nous sommes allés en Palestine, nous ne sommes pas allés en touristes, vous ne nous imaginez pas hein, les grands-mères touristes, nous avons été cueillir les olives, accompagner les Palestiniens qui cueillaient les olives et les placer entre grands guillemets sous notre protection. C'est pour empêcher les colons de détruire et de les détruire. Nous avons cueilli les olives, mais nous avons aussi visité un petit peu Jérusalem, le Choc, Ramallah, Hébron et Bethléem. Et en ce 24 décembre, j'ai vraiment une pensée pour les chrétiens de Bethléem et j'ai une pensée pour tous les Palestiniennes, les Palestiniens, les enfants qui mériteraient bien mieux à Gaza que la vie immonde qui leur est promise actuellement. Donc les luttes continueront et en ce 24 décembre, nous serrons vraiment très très fort le cœur pour les Palestiniennes et les Palestiniens. Donc en cette émission de veille de Noël, Claudette va vous faire un beau cadeau et je la remercie d'avance. Elle va vous parler d'un livre qu'elle a découvert lors d'une soirée à la librairie Transit, notre libraire préféré, notre libraire adoré, qui est au... Alors attendez, je l'ai noté. 45 Boulevard de la Libération. Et vous allez courir en découvrant le livre que Claudette va nous présenter. Claudette, je te laisse la parole et merci encore d'être là.
Alors merci ma chère amie. Alors comme vous pouvez le constater, ma voix n'est pas très très claire. Donc il va falloir m'excuser par avance de cette voix qui vient un peu d'outre-tombe et qui est due à une bronchite. Bon, alors n'épiloguons pas. J'ai le plaisir de vous présenter ce soir un livre qui s'appelle « Le secret de l'huile ». Le secret de l'huile est un conte très très particulier. C'est un conte palestinien moderne, un conte qui est sorti du ventre des prisons de l'occupant israélien en Palestine. C'est un conte qui met en valeur la résistance du peuple palestinien et qui tente aussi, autant que faire se peut, de faire dérailler le destin carcéral de ces jeunes générations, toujours plus nombreuses, enfermées par les Israéliens. Ce conte, il est dû à quelqu'un qui s'appelait Walid Daka. Walid Daka était un prisonnier politique palestinien, arrêté en 86, d'abord condamné à la prison à vie. Ensuite, cette prison a été réduite à 37 ans et il en a fait 35 ou 36. Enfin, il n'était pas loin du bout quand il est décédé par manque de soins dans la prison, dans les prisons israéliennes. Alors, c'est en prison qu'il a écrit ce conte, qui est à l'image de sa vie et à l'image de la lutte pour la libération collective de son peuple. Il y raconte l'histoire d'un fils qui est né en dehors de la prison grâce au sperme libéré de son père. Et cette histoire fait évidemment une résonance incroyable avec sa propre histoire, puisque par le fait qu'il a pu exfiltrer de son sperme de la prison où il était, la prison de Megiddo, je crois. Il a une petite fille qui est née en 2020, qu'il n'a évidemment pas connue. Et toute l'histoire de ce conte, c'est la quête de son fils, parce que dans le conte, il s'agit d'un fils et pas d'une fille. La quête de son fils qui veut absolument voir son père, qui dit avoir le droit de connaître son père. Et c'est cette dignité qui se renforce et qui se transmet entre son père et entre le père et le fils. Donc c'est un conte qui est destiné aux enfants, bien sûr, mais il est destiné aussi aux adultes. Il raconte la force de la transmission et l'espoir des libérations, car il a lui-même ce pouvoir de transmission. Ce conte a été sorti clandestinement de prison. Je vous dirai après comment, parce que je vous lirai un petit morceau de la préface à ce livre faite par celui qui a fait sortir le conte. Il a été édité en Palestine et puis par l'Institut Tamer pour l'éducation, et ensuite il a été traduit et il est arrivé chez nous, et chez nous il a été édité par une maison d'édition marseillaise. Ça vaut le coup de le souligner, c'est les éditions Terrasse. Donc ce livre, vous pouvez le trouver sans problème à la librairie Transit, et je vous engage vivement à y aller. C'est un très beau, ça ferait un très beau cadeau de Noël. Voilà. Dans le livre est divisé en plusieurs parties, une préface des éditeurs, une préface de la personne qui a sorti le document, donc, du conte de la prison, et puis le texte lui-même du conte, qui n'est pas très très long, et aussi des dessins qui ont été faits par un artiste palestinien, et en plus une carte on va dire de géographie presque, qui montre très clairement le chemin parcouru par cet enfant et ses amis. Alors il a plusieurs amis improbables, comme l'âne, le lapin, l'oiseau, enfin bref, hein, qui l'accompagne, avec lesquels il va arriver à rencontrer son père.
Je précise aussi que ce livre est écrit en français et en arabe, et c'est vraiment un très très beau cadeau, effectivement.
Oui, il est en arabe. Alors, la personne qui a sorti ce livre, son témoignage est vraiment très, très important, c'est Salah Amouri. Nos auditeurs connaissent bien sûr Salah, qui lui-même est franco-palestinien, qui a fait de longues années de prison dans les geôles israéliennes, qui vit en France maintenant, puisqu'il a été expulsé quasiment de Palestine, et interdiction d'y retourner. Voilà. Alors voilà ce que Salah Hamouri dit à propos de Walid Dacca. C'était fin juillet, début août 2017. Je pénétrais alors, assommé par la chaleur et l'humidité, dans la prison de Ramleh, une prison de transfert dans laquelle les prisonniers étaient détenus dans de véritables cages. Après quelques pas, j'entendis une voix lointaine. « Salah, Salah, dis au gardien qu'il te fasse entrer ici. » Je me retournai et aperçus avec surprise l'homme qui m'avait inspiré dans la majorité de mon engagement. Il était, comme à son habitude, en train de fumer sa cigarette. Une fois arrivé vers lui, il me prit dans ses bras et me dit avec affection « Qu'est-ce que tu fous encore là, toi ?» Je compris très vite que Walid allait me confier une nouvelle mission, une de celles dont il avait le secret. Après avoir été transférés tous les deux dans une autre prison à Beersheba, Walid me sortit un petit carnet et me dit « Écoute Salah, voici le nouveau manuscrit que je veux faire sortir pour le transmettre à l'extérieur. Prends-le, tu sais ce que contient ce manuscrit et tu sais ce qu'il te reste à faire. » Je me souviendrai toujours, dit toujours Salah, de Walid comme d'un être humain doté d'une force de caractère rare, d'un résistant qui a toujours refusé que la prison ne le transforme totalement. Même après plus de 30 ans d'incarcération, je ne l'ai jamais vraiment senti emprisonné. Son esprit, sa volonté, tout chez lui respirait l'extérieur. Walid était un pilier pour ses camarades de détention. Partout où il s'est trouvé, il était le penseur et il était aussi le stratège. Voilà pour la présentation donc de ce livre. Walid Dacca, qui est appelé aussi dans le livre Abou Milad. Milad étant le prénom de sa fille, il est fréquent que les gens soient désignés par l'appellation le père de. Donc Abou, c'est le père, Milad, de Milad. Donc cette petite fille qui est née en 2020, qu'il n'a jamais connue. Walid parlait, comprenait l'hébreu. Il était capable de traduire des livres, des articles de journaux. Il passait des heures entières à analyser les écrits des intellectuels sionistes pour mieux comprendre le fonctionnement de la société coloniale. Il était convaincu que nous ne pourrions, c'est toujours Salah qui parle, hein, que nous ne pourrions vaincre sans pouvoir comprendre le projet sioniste en profondeur. Une des choses qui me vient en tête aujourd'hui en fouillant dans mes souvenirs, c'est son analyse du livre de Naomi Klein, La stratégie du choc, dont il s'est inspiré pour son étude La refonte de la conscience, le titre d'une étude qui est évidemment sortie de prison et qui documente le mouvement des prisonniers et des prisonnières palestiniens, palestiniennes, et des stratégies évidemment de contrôle des Israéliens. Voilà les liens que Walid a tissés entre les concepts exprimés par Naomi Klein et la réalité de la vie en Palestine et en particulier dans les prisons coloniales. C'est toujours Salah Hamouri qui s'exprime, sont éclairantes, particulièrement aujourd'hui devant la situation tragique et le génocide en cours à Gaza. Pour Walid, c'est toujours Salah qui parle. Pour Walid, il était impossible de séparer un résistant de ses valeurs morales. Il nous rappelait sans cesse que ces valeurs étaient au cœur de notre engagement, de notre lutte, et que nous devions veiller à y rester fidèles. Comme il le disait toujours, si nous sacrifions nos vies et ces années d'existence dans les prisons de l'occupation, si nous résistons et luttons avec autant de courage et de détermination, c'est parce que nous aimons profondément la vie. C'est cet amour de la vie qui a poussé Walid et Sana, sa femme, à se battre pendant 10 années pour donner naissance à leur fille Milad. Milad, symbole de la résistance d'un peuple face à l'oppression. Voilà. Pour la présentation du livre. Alors évidemment, le fait d'avoir exfiltré son sperme, évidemment, a condamné Walid à des mois d'isolement total. Évidemment, c'était quelque chose que les Israéliens ne pouvaient accepter. Et donc, il a été mis à l'isolement pendant 6 mois et sa femme est en résidence surveillée. Elle, évidemment, elle, pour les Israéliens, c'est quelqu'un dont il faut se méfier. Voilà, donc ce livre a été d'abord édité en Palestine, en Ramallah, en 2018, par le Tamer Institute. Et avant de nous parvenir, malheureusement, Walid est décédé le 7 avril 2024. Et évidemment, comme d'habitude, son corps n'a pas été restitué à sa famille. Il est encore dans les coffres des Israéliens. Voilà. Alors, Walid était un prisonnier politique, évidemment. Il appartenait à une génération de prisonniers pré-Oslo, on va dire, hein, puisqu'il avait été arrêté en 86. Et il avait dirigé le mouvement des prisonniers palestiniens et acquis une audience très importante au sein de ces derniers et aussi dans la société palestinienne et dans tout le monde arabophone. Car malgré l'emprisonnement, il avait réussi à obtenir un master en études démocratiques de l'Université ouverte d'Israël en 2012. Et il était en train de préparer une thèse en philosophie à l'Université de Tel Aviv. Voilà, lorsque la maladie l'a terrassé. Il a beaucoup de ses écrits sont sortis. Et bon, pas toujours publié en français, c'est clair, mais en arabe ils le sont. Et toute son œuvre est traversée par l'exigence de penser la libération en forgeant des outils théoriques et intellectuels pouvant aider à comprendre les impasses des choix politiques du mouvement palestinien. Voilà. C'est extrêmement intéressant. Donc on va vous lire quelques extraits de ce.
Et avant que Claudette, pour lui permettre de reprendre son souffle, parce que elle fait vraiment un gros effort, on va vous passer une belle musique qui est magnifique et dont le titre est Together for Palestine. Sidi, musique s'il te plaît.
يمام ويلي بحكم النذل فيا يوم ما رجع أنا بعيونك خبيني قدي شفت عذاب وتعب بسنيني عمري كان يعذب فيا يما عمويل الهوى يما عمويليا يما عمويل الهوى يما عمويليا هو سين فامي ماما Mama, sing to the wind. I wish my bones could form a bridge and carry you to the other side. I wish my bones could form a bridge to our home.
Is it better to die in freedom than a captive life in chains?
Your mom will be Hawa, your mom will be here, your mom will be Hawa, your mom will be here. Oh, sing.
après ce morceau magnifique, nous continuerons à le passer si nous avons le temps à la fin de l'émission. Claudette va compléter la présentation de cet ouvrage, Le secret de l'huile, et ensuite, cadeau de Noël à tous nos auditeurs. Claudette vous en lira quelques extraits. Claudette, à toi.
Alors, Le secret de l'huile, donc, vient compter cet acte révolutionnaire qui prend racine dans l'espace le plus marginalisé de la Palestine, mais qui est aussi l'espace imaginaire populaire le plus fort et le plus résistant, c'est-à-dire la prison. Voilà. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que les autorités sionistes ont empêché la présentation du secret de l'huile dans la ville natale de l'auteur, à Baka al-Gharbiya. La même folie de briser les volontés de vivre au-delà des murs des prisons de l'occupation ne pouvait laisser la voix de Dhaka porter. Et à Haïfa aussi, la présentation fut interdite alors que le livre venait d'obtenir en 2018 le prix Sharja du meilleur livre pour la jeunesse. L'entité occupante l'a fait car ce livre porte la marque concrète, profonde, d'une littérature du temps parallèle dont traite Walid Dhaka dans tous ses écrits. Alors avant de lire quelques extraits du... pas tout évidemment, pour vous laisser la possibilité et le désir de lire ce livre...
Nous accueillons, alors pour lire, nous accueillons Marc avec nous, parce que vraiment Claudette a une bronchite, et voilà, nous avons le bonheur d'accueillir Marc, qui va pouvoir, alors au pied levé, mais merci à lui, parce qu'on n'est pas très très vaillantes toutes les deux, il va pouvoir nous lire des extraits avec Claudette. Voilà. Merci alors, d'avance à Marc.
Avant de passer la parole à Marc, très volontiers, vu... ma voix caverneuse, je voulais vous lire un enregistrement de Walid Dhaka au moment de la sortie en 2018, au moment de la sortie du livre, donc en Palestine. Voilà ce que Walid disait. La prison n'est pas la seule qui nous retient captifs avec ses murs et ses barbelés. Si vous me demandez quelle est la conclusion la plus importante à laquelle je suis parvenue au cours de ces 3 décennies et demie passées en prison, je dirais que nous avons perdu la Palestine, non par faiblesse, mais parce que nous sommes affaiblis et divisés par l'ignorance. L'ignorance est notre pire ennemi, plus dangereuse que la prison, car elle transforme votre esprit en une cellule de prison, où votre avenir et celui des générations futures sont retenus captifs. Mon objectif en écrivant Le secret de l'huile n'était pas l'écriture créative, mais plutôt le soumoud, la persévérance, la résilience en captivité. Car le soumoud était impossible pendant ces longues années sans libérer mon esprit de sa cellule petit à petit. Autant j'aspire à la libération de la prison, autant j'aspire à la libération de la prison de moi-même. Ce qui m'a fait le plus souffrir, c'est d'avoir vécu avec mon grand-père, mon père et mon fils pendant ma captivité. Et j'ai reconnu un scénario qui se répète sans cesse, comme si la captivité était en quelque chose héréditaire. Je voulais donc que Joud, c'est le nom qu'il donne à son fils dans le conte, je voulais donc que Joud émerge de l'histoire secrète de l'huile contre toute attente, qu'il trace un chemin qui ne mène pas à la prison. Je voulais qu'il imagine un avenir différent du nôtre. Je voulais libérer l'imagination de ces générations afin de les libérer des scénarios qui ont été décrits pour nous et que nous avons écrits pour les générations suivantes et pour toute une nation qui est entré en captivité. J'écris pour me libérer de la prison avec l'espoir de la libérer de moi-même. Voilà ce que Walid avait enregistré au moment de la sortie de son livre. Alors maintenant, place à quelques extraits de ce livre. Évidemment, c'est difficile parce que c'est toute une histoire. Voilà, donc c'est compliqué de choisir des extraits. Donc les extraits qui ont été choisis portent sur la dernière partie du conte, avec la rencontre par Jude et ses amis, évidemment, qui l'accompagnent, de la rencontre de Umrumi. Umrumi, c'est un olivier très ancien, puisque cet olivier a 1500 ans. Voilà. Et donc, c'est compliqué de choisir des petits morceaux. Voilà. Voilà, je passe donc la parole à notre ami
Marc.
À notre ami Marc. Merci Marc.
Merci. La tentative n'a pas échoué, elle n'a pas abouti. Et puis, qui est cette Umrumi ? Umrumi est un olivier. Elle a 1500 ans. Elle m'a dit qu'elle avait la solution à ton problème. Et comment ? Je ne sais pas. Elle ne me l'a pas dit. Elle a juste dit « Il faut absolument qu'il me rende visite ». Jude comprit qu'il ne pourrait plus rien tirer de Borat, et encore moins de le convaincre. Il se mit à marcher à quelques mètres de l'âne. Il s'arrêta devant un vieil arbre. Son tronc était large. Il était craquelé et plein de veines, tel le corps d'une ancienne combattante. Jude sentit les veines en caressant le tronc. Il glissa les petites paumes de ses mains entre les veines. L'arbre lui raconta son histoire. Chaque veine avait son histoire. Chaque sillon avait son histoire. Nombreux et nombreux étaient celles et ceux qui avaient ramassé son bois, avaient mangé ses fruits, qui s'étaient cachés dans son tronc dont l'intérieur le fit penser à un puits sans fond, tellement il y faisait sombre. Tout le monde avait pris de l'arbre, et lui avait donné, à l'exception des colons. Il ne voulait ni de son bois, ni de ses fruits. Il voulait seulement l'arracher et le déraciner. Vous, les humains, vous avez la faculté d'écouter. Mais celle de comprendre, c'est autre chose. Vous plantez autant que vous arrachez. Vous croyez que les animaux sont plus proches de nous que de vous. Pourtant, leur sens de l'expérience et de la pensée est plus proche du vôtre. L'expérience, c'est la vie. Combien de temps vivent les animaux ? Est-ce qu'un seul animal a vécu autant que moi, 1500 ans ? Et vous ? Combien de temps vivez-vous ? Vous vivez et vous mourrez. Vous croyez que vous avez l'âge des arbres. Des peuples entiers se sont réfugiés sous mon ombre. Au cours de ma vie, des royaumes se sont effondrés. Dans mon tronc se sont cachés celles et ceux qui fuyaient insultants. Des prophètes ont mangé de mes olives et de mon huile. Avec mon huile, des pèlerins ont frotté leurs nourrissons. D'autres ont éclairé leurs maisons et leurs lieux de culte. L'huile recèle un secret qu'aucune de mes ancêtres n'a révélé à personne, sauf à un seul enfant il y a plus de 2000 ans. Cet enfant au cœur pur frottait de sa paume les visages des malades et les guérissait. Ton cœur aussi est pur, Jude, blanc comme la neige. J'ai entendu ton cri quand tu appelais ton père. Ce cri m'a déchiré l'écorce. Il n'y a rien de plus pur que le cri d'un enfant opprimé qui appelle son père. Aujourd'hui, je te révèle mon secret pour que tu apaises ta famille et le monde du mal de l'époque. Nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous, car ils veulent me déraciner et m'arracher à cette terre, comme ils veulent t'arracher du cœur de ton père. Ils marchèrent ensemble en direction de Khilet al-Hajouz. Ils y arrivèrent peu de temps avant le coucher du soleil. Ils s'arrêtèrent pour contempler le paysage qui les laissa effarés. Les bulldozers des colons étaient là, immobiles. Leurs outils métalliques étaient des corps sans vie. Un silence de mort régnait après une journée de vacarme et de travail à arracher ce qu'il était en terre. L'appel du bulldozer ressemblait à la main d'une créature imaginaire et surréelle qui mordait la terre de Khilet al-Hajouz avec ses énormes griffes, arrachant les oliviers à leurs racines. Elle prenait avec elle une couche rouge de terre, pareille à la chair de la terre. Des couches blanches de chaux souterraines émergeaient, pareilles à des os gras ou brisés et exposés au vent. La scène était terrible. Le lieu était défiguré. Ils étaient incapables de le reconnaître. Joud regarda de tous les côtés en essayant de réunir tous les souvenirs qu'il avait de Khilet al-Hajouz pour retrouver Umroumi. Il se dit en l'espace d'un instant qu'il était arrivé trop tard et qu'il l'avait déjà arraché comme les autres arbres et qu'il l'avait déplacé dans un de leurs camions. Elle est là-bas, là-haut, s'écria Borat en brisant le silence qui s'était installé. Il se dirigea vers le sommet de la colline et les y conduisit. Le mal de l'époque est la perte de la liberté, affirma Umroumi. Des millions d'êtres humains ont immigré du sud au nord après avoir perdu leur liberté. Des gens ont émigré quand se sont répandus la faim ou encore d'autres fléaux. Maintenant, ils émigrent parce qu'ils ont été privés de leur liberté. Ton père est un prisonnier, privé de sa liberté. La perte de la liberté a des aspects visibles et invisibles. Les prisons, les checkpoints, le mur, les différents types de barbelés aux frontières sont les marques visibles de la perte de la liberté. Quant à la face cachée de ce mal, c'est la perte de la raison et des valeurs, ce que l'on appelle généralement l'ignorance. C'est la plus dangereuse des prisons et la plus brutale aussi. Le secret de l'huile que je vais te léguer, c'est la dissimulation. Elle te permettra de soigner uniquement la face visible du mal de l'époque. C'est à toi de chercher l'huile dans ton esprit et ta connaissance afin de mettre au jour la face invisible du secret pour mieux soigner la face invisible du mal. Il semblerait que nous ayons atteint notre destination finale. Nous devons nous séparer. Es-tu prêt pour ce que je dois te dire ? Oui, je suis prêt, répondit Joud. Là où tu es, il y a deux marches. Descends-les et regarde au plus profond du tronc. Joud descendit comme elle le lui avait demandé. Il vit au loin des étoiles dont la lumière perçait à peine. C'était comme un ciel infini constellé d'étoiles, tandis que la nuit profonde se dissipait tout autour. Tu vois ces lumières pâles ? Ce ne sont pas des étoiles, mais des graines tombées dans mon tronc. Le secret de l'huile qui est en elle a été protégé par la pénombre pendant des centaines d'années. Pour que tu puisses le protéger à ton tour, tu dois garder ces graines dans un endroit sombre, à l'abri de la lumière du soleil. Mais non, il n'y en a pas beaucoup. Ce que tu vois, c'est la faible brillance de celles qui n'ont pas encore produit de secret. Il faut les garder pour les générations à venir. Cherche les graines dont la lumière s'est éteinte et rassemble-les. C'est dans celles-ci que le secret a bien mûri. Nous sommes arrivés à notre destination finale. Prends 3 graines et presse-les pour en faire de l'huile. Frotte le corps de tes amis et le tien avec. Sortez de mon tronc et soyez rassurés. Personne ne vous verra. Jude intervint et dit qu'Umrumi, lorsqu'elle lui avait révélé le secret, lui avait parlé de sa mission de soigner les gens du mal de l'époque. Il raconta que lorsqu'il l'avait interrogée sur ce mal, elle avait répondu qu'il s'agissait de la perte de la liberté, que la prison, le mur et les checkpoints en étaient la face visible. Quant à la face cachée du mal, c'était la perte de la raison, l'ignorance et la perte des valeurs, et que c'était la plus dangereuse des prisons. Elle avait également dit que l'huile rendait invisible, mais ne guérissait pas. Que l'on pouvait faire disparaître le mur, les colonies et les routes, mais qu'on n'en guérissait pas. Jude sentit la tension monter. Il se dit qu'il était la cause de cette discussion intense qui avait assombri l'ambiance dans la cellule. Il mit sa main dans sa poche et caressait les olives telles les perles d'un chapelet pour dissiper sa tension quand se fit entendre la voix de Camille, calme et chaleureuse, apportant un peu de réconfort. C'était là son habitude jusqu'à la venue de Jude, qui l'avait transformé de Camille le combattant en Abu Jude, le père qui avait lui-même besoin de quelqu'un pour le calmer. Il dit « Nous avons tous et toutes le droit de nous libérer. Et je ne sais pas si nous sommes les plus en droit. Suis-je plus en droit de le faire qu'un enfant qui a besoin d'un traitement et à qui l'on ne donne pas de permis pour aller le recevoir ? Et toi ? Dit-il en montrant Kalash du doigt. Es-tu plus en droit que les mères et les fils de prisonniers à qui le droit de visite est refusé ? Qui est le plus important ? Un groupe de prisonniers libérés de la prison ? Ou bien un groupe d'étudiants qui parvient à se rendre à l'université ? Je n'ai pas de réponse définitive. Je me débrouille comme je peux. Des fois, je pense aux milliers d'enfants qui ne sont jamais sortis de leur village ou de leur ville et qui vivent dans une prison à ciel ouvert. Regardez Gaza, par exemple. Des gens y naissent et y grandissent sans jamais avoir rien vu d'autre que ce petit bout de terre. Quelle ironie du sort! Il y a celles et ceux qui vivent au bord de la mer avec l'horizon à perte de vue sans jamais pouvoir voyager. Et celles et ceux qui naissent et meurent sans jamais avoir vu la mer. Et d'autres fois, je pense à moi et aux années que j'ai passées en prison, loin de ma famille, de ma femme et de mon fils, devenu grand sans jamais l'avoir vu. Ce n'est pas seulement que je n'ai pas de réponse, c'est aussi que je n'ai pas le droit. Et qu'aucun d'entre nous n'a le droit de décider de cela. C'est à Jude de décider, puisque c'est lui qui détient le secret de l'huile. Et comme vous l'avez entendu, l'huile est en quantité limitée. C'est donc une affaire de priorité. Et c'est Jude qui en décidera. Même s'il s'agissait d'éléments qui rendaient la situation encore plus compliquée qu'elle ne l'était, le plus important était de retenir la dernière phrase de son père, que la décision lui revenait. Il désirait plus que tout que son père et les prisonniers l'aident à prendre la bonne décision en tenant compte des paroles d'Oum Roumi qu'il leur avait rapportées. Aboudjoud contemplait le visage de ses amis. Il donnait l'impression de les écouter. Or, en réalité, il ne pensait qu'à une chose. Son envie de demander à Joud de se frotter d'huile pour lui apparaître en chair et en os. Il se demandait s'il avait le droit de voir son fils alors que des centaines de prisonniers étaient privés de visite. Son fils était né et avait grandi sans qu'il ne puisse jamais le toucher ou le voir autrement que sur les photos que sa femme lui apportait. Mais il refoula rapidement cette pensée qui s'était glissée dans son cœur. Ce que j'entends est vrai. À l'autre bout du fil, Joud répondit. C'est vrai. C'est là toute ta décision? Non, ce n'est que le début. La partie la plus importante, je vais la consacrer à la recherche scientifique. Car tu sais bien que la quantité est limitée. La recherche scientifique aura pour objectif de la transformer qualitativement. Et pourquoi faire? Pour libérer le plus vieux prisonnier arabe. Et qui est-il? L'avenir, papa. L'avenir.
Voilà. Quelques extraits du livre. Magnifique conte, je dois dire.
Merci à Marc pour cette lecture. Donc ce livre, vous pouvez vous le procurer à la librairie Transit au 45 boulevard de la Libération. Donc je vous rappelle le titre, Le secret de l'huile, de Walid Daka, et Courez y vite, c'est vraiment un livre magnifique.
Bilingue,
voilà. Et avant de terminer, nous allons vous lire des extraits d'un autre texte, un autre conte de Noël, qui a été écrit il y a quelques jours à Gaza par Abou Samir, du coup j'ai un trou, et qui est à Gaza, qui écrit tous les jours. Vous pouvez trouver ses chroniques sur le site de l'Union française des Juifs pour la paix, donc de l'UJFP. Et Abou Amir, voilà. Et il écrit tous les jours, il nous dépeint la situation à Gaza, mais aussi les luttes à Gaza, les luttes pour que les enfants, même sans école, mais avec les portables, puissent étudier, la lutte pour partager le peu de nourriture qu'il y a, le peu de toiles de tente qu'il y a, la lutte pour aider les femmes à résister psychologiquement. Donc une très très belle chronique sur le site de l'UJFP. Et là, Marc encore, merci à Marc, va nous en lire quelques extraits. C'est un conte de Noël qu'il a écrit et qui est aussi magnifique. Merci Marc d'avance.
Au tout dernier bord de la mer, à l'endroit où la couleur de l'eau change lorsque la touche le coucher du soleil, il existait une petite ville que les oiseaux connaissaient mieux que les humains. Une ville qui ne grandissait pas en superficie, mais qui grandissait dans le cœur. Elle s'appelait Gaza. Gaza ressemblait à une femme sortie du ventre de la tempête, portant dans ses yeux un peu de la patience de la terre et un peu de l'entêtement des pauvres, qui savent que rester en vie n'est pas un luxe, mais un devoir. Ces ruelles étroites étaient comme de vieux airs musicaux, gardant la mémoire des pas des enfants, des voix des marchands et des rires des femmes sur les balcons. Et la mer, ce gardien éternel, observait tout en silence, comme s'il connaissait les secrets de la ville depuis la première vague qui avait battu son rivage. Mais les villes, même les plus innocentes, ne peuvent échapper à des destins tracés sur des cartes auxquelles elles n'ont jamais eu leur mot à dire. L'histoire commença un jour où l'aube trembla. Ce n'était pas le frémissement habituel de la brise marine, mais un bruit étrange. Un son qui ressemblait à la chute d'une étoile du ciel. Gaza ouvrit les yeux et comprit que la lumière qui l'inondait n'était pas celle d'un nouveau soleil, mais un éclair attaquant les maisons au loin. À cet instant, la ville comprit qu'elle avait rendez-vous avec un autre temps, un temps qui n'avait traversé aucune ville auparavant. La population de Gaza n'était pas grande comparée à celle des villes du monde, mais trop grande pour être ignorée et trop profonde pour se dissoudre dans le silence. Plus de 2 millions d'âmes étaient enfermées dans des frontières que l'on ne pouvait voir que du ciel, des limites de ciment et de fil barbelé, encerclant un peuple comme s'il s'agissait d'une erreur à corriger ou d'un chapitre d'un livre que quelqu'un voulait déchirer. Gaza savait qu'elle était prisonnière, mais une prisonnière dont le nom survit dans la mémoire ne meurt jamais. Cependant, elle ne savait pas encore que les jours à venir transformeraient ses pierres en cendres et les cœurs de ses habitants en blessures ouvertes sur le monde. La nuit, les drones planaient comme des oiseaux noirs en quête de proie. Ils faisaient un bruit fort, mais ce qu'ils diffusaient vraiment, c'était une peur qui traversait les murs et venait se loger dans les cœurs des enfants. Ils surveillaient la ville dans ses moindres détails. La cuisson tardive sur un petit feu, la chambre éclairée par la dernière bougie, la mère qui essaie d'apaiser son enfant et l'homme debout sur le toit, cherchant dans le ciel une étoile qui ressemblerait à la paix. L'obscurité tomba quand l'électricité fut coupée. La nuit devint trouble, nuit du ciel et nuit de la peur. Gaza était la bien-aimée de la lune, mais durant ces nuits-là, il semblait qu'elle ne pouvait plus lui offrir sa lumière. Puis, l'eau fut coupée. Et la soif devint un souvenir inscrit dans la mémoire. La nourriture fut interdite. Le pain devint une chanson que l'on ne chantait que rarement. Les médicaments furent empêchés d'entrer. Les douleurs commencèrent à habiter la ville comme la poussière l'habite. Mais Gaza, malgré tout, n'a jamais fermé son cœur. Elle savait que l'amour seul ne vint pas la guerre, mais qu'il rend l'âme plus forte. Puis commença le bombardement. Un bombardement qui ne ressemblait ni à la pluie ni à l'orage, mais à de vieilles malédictions tombant du ciel sans pitié. Chaque frappe faisait trembler la terre, mais la terre ne cédait pas. Chaque frappe annonçait la mort, mais la mort elle-même semblait hésiter devant le nombre des victimes. Des maisons pleines de souvenirs s'effondrèrent. Des cahiers d'écoliers brûlèrent avant que leurs propriétaires ne les lisent. Des jouets d'enfants disparurent sous les décombres. Des mères appelaient leurs enfants dans le vide. Des hommes portaient les pierres de leur maison comme s'ils portaient une part de leur âme. Et malgré tout cela, le monde se contentait de regarder. Il disait « conflit ». Mais Gaza savait qu'elle n'était pas une partie dans un conflit, mais la cible de quelque chose de plus grand que la guerre. Une tentative d'effacer une ville de l'histoire. Dans les hôpitaux, il n'y avait plus de place pour les lits. Le sol devint le matelas des blessés. Les enfants furent placés côte à côte pour sentir qu'ils n'étaient pas seuls. Les médecins travaillaient sans sommeil, sans outils, sans énergie. Mais ils travaillaient avec amour, avec une âme qui ne se mesure pas. Et malgré tout, il y avait toujours une petite lumière, Une lumière qui surgissait de sous les ruines, du cœur des cris, de la main qui sortait de la poussière pour en saisir une autre. Et par une nuit, parmi les longues nuits de terreur, survint ce que les gens n'avaient jamais vu. Un éclair blanc apparut dans le ciel, blanc jusqu'à l'aveuglement, blanc jusqu'à la terreur, blanc au point que la nuit entière s'enfuit. La nuit devint jour pendant une minute, puis revint, plus sombre que toutes celles qui l'avaient précédée. Les gens dirent : ce n'est pas seulement une arme, c'est l'annonce de la fin d'une génération entière.
Merci Marc. Le temps a passé trop vite, l'heure se termine. Vous découvrirez la suite de ce beau texte de Abou Amir sur le site de l'Union française des Juifs pour la paix. C'est une chronique quotidienne dont vous la retrouverez. Vous en trouverez d'autres aussi bien écrites l'une que l'autre. Merci à Claudette. Courez vite à la librairie Transit, achetez le magnifique conte qu'elle nous a fait découvrir. Et découvrez le texte de Abou Amir. Cette émission du 24 décembre se termine. Nous vous souhaitons une magnifique soirée de Noël. Nous souhaitons de méditer ces belles paroles, ces paroles d'espoir. La semaine prochaine, c'est Philippe qui fera l'émission, la dernière de l'année, le 31 décembre. Merci à Philippe. Merci à Radio Galère de nous avoir accueillis. Nous vous souhaitons un bon Noël.
Merci. Bin dich schon